Merci. Ben, je pense que c'est surtout Olivier Adam et Agnès de Sarthe qui vont parler très bien de ce qu'ils ont écrit eux-mêmes. Donc voilà, je fais un petit récapitulatif de l'œuvre et de la personnalité d'Agnès de Sarthe et d'Olivier Adam. Donc vous m'arrêtez si je me trompe, n'hésitez surtout pas. Agnès de Sarthe, vous êtes née en 66 à Paris. Vous avez publié votre premier roman, Quelques minutes de bonheur absolu, aux éditions de l'Olivier, déjà en 93. Votre sixième roman, Mangez-moi, en 2006, a connu un très grand succès en France et à l'étranger. Et pour Le Remplaçant, en 2009, vous avez reçu le prix Femina. Vous êtes agrégée d'anglais et vous êtes également traductrice. Vous avez co-signé, entre autres avec Geneviève Brisac, un essai sur Virginia Woolf, VW ou le mélange des genres, en 2004. Et par ailleurs, vous avez publié de nombreux livres pour la jeunesse à l'École des loisirs. Excusez-moi, j'ai un petit problème de gorge, j'espère que vous m'entendez bien. Alors concernant Dans la nuit brune, je vais me risquer un petit résumé. Il s'agit du personnage principal qui s'appelle Jérôme, qui est un homme calme. C'est du moins ce qu'il croit. Et lorsque l'amoureux de sa fille Marina meurt dans un accident de moto, eh bien il tombe dans une profonde agitation. Il ne sait pas trop que faire du chagrin de Marina, et d'autres secousses viennent ébranler sa vie. Il doit alors se rendre à l'évidence. Il ne sait rien de ses origines et de lui-même, sinon qu'il a été recueilli jadis dans les bois par un couple qu'il a adopté. Alors d'où vient-il? Ça va être évidemment une partie du sujet de ce livre Dans la nuit brune. Dans sa recherche, il va être guidé par un étrange mentor qui est un ancien commissaire de police à la retraite. On n'en dira pas plus pour l'instant. Alors, Olivier Adam, vous êtes né en 1974, vous avez grandi en banlieue et vécu à Paris. Vous êtes installé à Saint-Malo et vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont Passer l'hiver, qui a obtenu le Goncourt de la Nouvelle en 2004, Falaise, À l'abri de rien, qui a obtenu le prix France Télévisions en 2007 et le prix Jean-Amila Mecker en 2008, et Des vents contraires, qui a également été primé en 2009. Alors pour parler de Le cœur régulier, il s'agit là aussi évidemment d'un personnage principal qui s'appelle Nathan. Il est mort et en fait, depuis la mort de son frère, très très aimé, Sarah, qui elle, pardon, est la personnage principale, Sarah se sent de plus en plus étrangère à sa vie, donc depuis la mort de son frère. Sa vie qui était jusque-là très rangée et très parfaite, avec un mari, deux enfants, une bonne situation, une belle maison. Le cœur en cavale, Sarah s'enfuit au Japon et se réfugie dans un petit village au pied des falaises. Nathan prétendait avoir trouvé là-bas la paix auprès d'un certain Natsume. Et en revisitant les lieux d'élection de ce frère disparu, Sarah a l'espoir de se rapprocher une dernière fois de Nathan, mais c'est sa propre histoire qu'elle va redécouvrir, à ses risques et périls. Alors, à ce stade de notre rencontre, je ne sais pas si vous avez déjà des choses à corriger ou à dire, sinon, moi, je vous propose tout simplement peut-être de lire un passage chacun de votre livre, si vous voulez bien donner un avant-goût aux personnes qui sont ici. Honneur aux dames, Agnès de Sarthe, si vous voulez. On a choisi voilà, deux extraits de lecture. Donc Agnès, si vous voulez peut-être le présenter rapidement.
C'est un passage qui se situe presque au milieu du livre. À ce moment-là, Jérôme, donc ce personnage principal, a déjà été ébranlé par le chagrin qui a touché sa fille Marina. Et c'est un homme particulièrement désemparé et inerte. Et là, on va le découvrir dans une scène qui, c'est une scène un peu récurrente dans le livre. Une scène qui se passe en forêt. Il a un rapport très particulier avec la nature. On va comprendre pourquoi au cours du livre. Et donc, je lis, et puis s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, je m'arrêterai. Jérôme arrête la voiture au moment où le soleil, qui a fini par percer les nuages une heure avant de se coucher, disparaît, avalé par l'horizon. Il se gare sur un chemin de terre à l'entrée de la forêt et attend, les mains posées sur les genoux, que la nuit tombe. Il songe qu'une mort parfaite devrait se dérouler ainsi, comme la fin d'une journée. Dernier rayon dardé, ombre indigo, puis grise, ultime éclat des couleurs, persistance des tons clairs dans l'obscurité, pause, apparition des premières étoiles. Mais la mort n'est pas comme ça. La plupart du temps, elle frappe d'un coup, inouïe, saugrenue. Existe-t-il encore des morts naturelles? Les actualités sont farcies de catastrophes, d'accidents. Comment était-ce autrefois? Jérôme n'en sait rien. Souvent, il regrette qu'à ses interrogations ne répondent aucune connaissance. S'il était médecin, historien, sociologue, peut-être comprendrait-il davantage. Il se dit que sa fascination pour l'alternance du jour et de la nuit lui a joué des tours. Certains voient la vérité dans les chiffres. Lui, depuis l'enfance, l'a cherché dans l'aube et le crépuscule, comme si cette double bascule constituait la métaphore absolue. Apparition, disparition, lumière, obscurité. Jérôme ne sort jamais de la dualité. Il est victime de l'illusion rassurante qui veut que l'on revienne toujours au même. Après la nuit, le jour, après le jour, la nuit, et ainsi de suite, sans fin, en cercle. Les morts, selon cette conception, devraient forcément finir par revivre. Il se rend compte qu'il passe son temps à attendre, que l'attente est son mode d'être le plus constant. À l'instant où cette idée s'empare de lui, il s'éjecte de la voiture, claque la portière et se précipite sur le chemin en pente qui coupe la forêt en deux. Il file dans la nuit, trébuche sur une racine, s'aplatit au sol et continue en rampant. Ses mains se glissent sous le tapis de feuilles, son menton se râpe contre les cailloux qui affleurent et sa joue se console sur un oreiller de mousse. Entraîné dans la descente, il roule sur lui-même en long, en boule, les membres tantôt repliés, tantôt étendus, projetés loin du tronc. Il rebondit, perd la tête, oublie qui il est, les narines réjouies par le parfum des feuilles pourrissantes, les yeux fermés, le cœur serré pourtant, parce que lui qui ne se souvient de rien se rappelle comment il a appris à se déplacer parmi les éboulis et dans les anciens lits de ruisseaux, au sommet des ronciers. Son corps possède la mémoire dont son esprit est dépourvu. Quand il dégringole ainsi, il n'a plus d'âge, aucune arthrose ne gêne ses articulations, aucun essoufflement n'empêche la course, son torse maigre s'enveloppe d'une pellicule douillette, sa peau de bébé retrouvée, élastique et souple, résiste à tout. En ville, il redevient l'homme de 56 ans qui rechigne à grimper un escalier, son dos craque et souffre dès qu'il se penche sans précaution, ses mains rougissent au froid, ses membres s'engourdissent, il demeure assis plus de 5 minutes.
Je continue. Non, ça va bien, je crois. Très bien. Merci beaucoup, Agnès de Sarthe. Donc, on aura l'occasion, évidemment, d'entrer dans le vif du sujet, et notamment de ce personnage, Jérôme, et son rapport épidermique, même plus qu'épidermique, sensitif, très fort avec la Terre. Mais on va passer tout de suite, si vous voulez bien, Olivier Adam, à la découverte des premières pages de votre roman « Le cœur régulier ».
Bon, c'est le début, alors il n'y a rien à situer. C'est pratique. Il y a juste écrit grand 1. Pas très... C'est une nuit sans lune et c'est à peine si l'on distingue l'eau du ciel, les arbres des falaises, le sable des roches. Seules scintillent quelques lumières, de rares fenêtres allumées, une dizaine de lampadaires le long de la plage, deux autres aux abords du sanctuaire, le néon d'un bar, un distributeur de boissons, myriades de canettes multicolores sous l'éclairage cru. Plus grand monde s'attarde à cette heure. La fin de l'été a ravalé les touristes, les dernières cigales crissent dans les jardins de la pension. Nous sommes fin septembre, mais il fait encore tiède. Par la baie entr'ouverte monte la rumeur du ressac, s'y mêle le froissement des feuilles, le balancement des bambous, les craquements des cèdres. Les singes se sont tus peu après la tombée du jour. Tout à l'heure, ils hurlaient de panique, puis l'obscurité a tout recouvert et ils ont renoncé. Je rentrais des falaises par ce chemin sinueux que j'emprunte depuis déjà 6 jours. Sous la voûte des grands arbres où se croisaient les premières chauves-souris et les dernières buses, au milieu des fougères, des tapis de mousse, je longeais des lanternes déjà familières, des rosa rugosa encore fleuries, des camélias aux feuilles luisantes, des érables encore verts, des maisons de bois par les fenêtres desquelles se devinaient des mobiliers à ras du sol, des cloisons de papier, les crus blonds des tatamis. Il n'était pas 7 heures, mais déjà des repas s'y préparaient, répandaient leurs parfums moites de bouillon et d'algues, de thé vert et de soja. 3 gamins en tenue de baseball me suivaient en bavardant, la batte sur l'épaule. Ils ont bifurqué dans mon dos sans que je m'en aperçoive. Quand je me suis retourné, il n'y avait plus personne. J'aurais aussi bien pu avoir été filé par des fantômes. Arrivé à la pension, je me suis installé près des fenêtres, accroupi autour d'une table en bois laqué. Nous n'étions que 5 à dîner, Catherine, moi-même et trois Japonais, un couple élégant et silencieux, tous deux vêtus de kimonos sobres et parfaitement coupés, visages aux traits si fins qu'on les aurait dit échappés d'un film, d'une photo, et légèrement en retrait un homme d'une cinquantaine d'années, costume anthracite sur chemise claire, dont la bouche arborait en permanence une cigarette entièrement blanche. Il les sortait d'un paquet souple et bleu ciel, et ne s'interrompait que pour avaler quelques bouchées ou boire une gorgée de bière d'une longueur inhabituelle, comme s'il tentait de vider son verre en un seul trait. Nous nous sommes salués en hochant la tête, bustes inclinés, sourires de convenance, puis chacun s'est de nouveau penché sur son assiette. La patronne m'a servi un bol de riz et d'anguilles avant de s'installer à l'écart pour prendre son repas, elle aussi, en compagnie de sa fille Hiromi, une gamine d'une quinzaine d'années que j'avais croisée plus tôt dans la journée. Sitôt l'école quittée, elle avait remonté sa jupe de plusieurs centimètres, défait trois boutons de son chemisier, maquillé ses yeux et sorti son téléphone portable de son sac, d'où pendaient une dizaine de breloques. Porte-bonheur Shinto, figurines de manga, créatures issues des films de Miyazaki et la galerie complète des Aristochats. J'ai pensé à ma propre fille en la voyant. Elle me manquait pas encore. Est-ce que les enfants nous manquent une fois entrés dans l'adolescence? J'en étais pas certaine. Romain non plus me manquait pas. Anaïs avait bientôt 16 ans et lui 14 à peine. Depuis pas mal de temps, nous ne faisions plus que nous croiser. Nous ne vivions plus ensemble, mais les uns à côté des autres, sous un même toit, en colocation en quelque sorte. J'avais mis du temps à m'en rendre compte, mais vu d'ici, vu de si loin, oui. C'est ainsi que m'apparaissaient les choses. Vu de loin, on voit rien, disait Nathan à tout propos, et cette phrase semblait recouvrir à ses yeux une vérité essentielle. J'ai jamais compris ce que mon frère entendait par là. Mais aujourd'hui, je sais qu'il avait tort, que c'est exactement le contraire. Vu de près, pris dans le cours ordinaire, on voit rien de sa propre vie. Pour la saisir, il faut s'en extraire, exécuter un léger pas de côté. La plupart des gens le font jamais, ils ont pas tort. Personne n'a envie d'entrevoir l'avancée des glaces. Personne n'a envie de se retrouver suspendu dans le vide. Nos vies tiennent dans un dé à coudre. Je sais plus qui disait ça l'autre jour, c'était à la radio, je crois, ou bien l'ai lu dans un livre, je sais plus. Mais cette phrase m'a saisi. Nathan aura pu la prononcer, je pensais, l'ajouter aux dizaines d'autres, tout aussi définitifs et désenchantés qui lui servaient de viatique, dessinaient une ligne de conduite qu'il n'a jamais menée nulle part. J'avais pris le premier avion pour Tokyo, le cœur en cavale, dans un état de confusion totale, fuyant une menace indéfinissable dont je sentais qu'elle n'allait pas tarder à m'engloutir.
Merci, Olivier Adam. Alors, en fait, la première question que je voulais vous poser n'a pour l'instant pas grand-chose à voir avec le livre que vous venez d'écrire, chacun de vous, mais c'est de savoir si vous connaissez, vous êtes déjà rencontrés au moins dans un recueil qui s'appelle La cinquième saison, qui est un recueil consacré à cinq écrivains sur le thème de l'adolescence. Mais à part ça, qu'est-ce qui vous lie? Est-ce que vous sentez des points communs? Est-ce que vous connaissez dans la vraie vie, comme on dit? Est-ce que vous croisez dans les maisons d'édition de l'Olivier ou pas? Racontez-nous.
C'est un peu notre vie privée, non? Qu'est-ce que t'en penses? On répond
à ça?
C'est
très indiscret.
Moi, je peux dire un truc purement littéraire, c'est que j'ai commencé à publier plus tard qu'Agnès. Et voilà, que j'ai lu tous ses livres et que quand j'étais aspirant, entre guillemets, que j'écrivais dans ma chambre de bonne en espérant un jour peut-être montrer mes livres, il y avait une maison d'édition qui s'appelait l'édition de l'Olivier, qui était un endroit où il me semblait qu'il était possible vers lequel je m'oriente, enfin disons, dont je rêvais qu'il m'accueille un jour. Et si je rêvais qu'il m'accueille un jour, c'était pas parce qu'il y avait un joli Olivier sur la couverture, mais c'est parce que voilà, il y avait des auteurs, un pool d'auteurs qui dont je lisais tous les livres dès qu'ils sortaient, dont les livres d'Agnès. Et puis ensuite il se trouve que j'ai aussi commencé à publier des livres à l'école des loisirs. Donc, et puis aussi, je crois que il y a un certain nombre de choses liées à ces livres et à ceux de Genèse Brisac aussi, qui m'ont mené, par exemple, à découvrir tout Virginia Woolf un peu tardivement. Mais donc, voilà, les liens, ils sont ceux d'un lecteur qui dans un moment où moi je me sentais encore vraiment en formation, il y avait des gens qui pour moi étaient des phares comme ça, et dont je suivais le travail, qui à la fois me touchait et qui me nourrissait et nourrissait ma propre mes propres essais à cette époque-là. Et puis comme j'aime bien tirer les fils, c'est vrai qu'il y a des influences ou revendiquées par ces auteurs-là, qui ensuite m'ont encore nourri. Voilà, donc c'est. Après, on s'est pas souvent croisés, mais un petit peu quand même, parce que on publie dans les deux mêmes maisons d'édition. Quoi.
Non, mais c'est vrai que ce qui est agréable, c'est d'être dans une certaine forme de fraternité d'écrivains. Il arrive que les gens voient de l'extérieur, de loin, justement, comme Sarah regardant sa vie de loin, imagine que les écrivains se tirent dans les pattes, se détestent, se regardent comme ça, etc. C'est peut-être le cas pour certains. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on travaille, ni à l'école des loisirs, ni aux éditions de l'Olivier. Et je pense que, parce qu'on a souvent eu de bonnes surprises, on est plutôt curieux les uns des autres et on se lit. Et ça, c'est très important, en fait. Après, on se demandait, on n'arrivait même plus à retrouver si on avait déjà fait une rencontre ensemble, si finalement on en avait fait une, oui, mais parce que je crois que c'est pas tant ça qui compte pour nous que le fait de se suivre et de se lire et d'être bien sous le même toit, quoi. Mais ça, c'est aussi dû, je pense, à l'état d'esprit et à la façon de travailler de nos éditeurs, hein, qui ont cette forme d'ouverture. Et c'est vraiment une maison d'édition, quoi, comme une maison. Et ça permet de créer ces liens qui sont précieux, parce que dans l'écriture, on est très seul. Et c'est bon de pouvoir partager. Et c'est sain de le faire.
Alors, en fait, vous vous intéressez tous deux à des thèmes qui vous rapprochent aussi. Il y a le thème de la famille et il y a aussi plus précisément le thème de l'enfance qu'on retrouve aussi dans vos livres. Et là, du coup, j'ai trouvé une citation d'Olivier Adam qui cite Agnès de Sarthe. Alors, vous me direz si c'est vraiment vrai, parce que parfois, on attribue des citations qui ne le sont pas. C'est à propos de l'enfance. Et donc, Olivier Adam, vous dites « L'enfance qu'Agnès de Sarthe a qualifiée de centre de cette boule qu'est le temps. On ne fait que tourner autour. » Alors,
ouais, enfin, je sais pas, la citation est du journaliste qui a repris ma citation d'Agnès est un peu bizarre.
Mais
non, en fait, depuis que je présente ce livre, il y a plein évidemment de points communs et de circulation entre les, mais assez systématiquement, il y a deux choses que j'utilise du livre d'Agnès pour parler de mon livre. C'est la première chose, c'est une phrase à un moment donné où elle dit quelque chose comme face au chagrin, il y a qu'un seul rempart, c'est celui de la compréhension, en gros. Et je me suis rendu compte qu'au fond, ça aurait pu être l'exergue du cœur régulier. Et l'autre chose, on me demandait pourquoi à chaque fois j'en reviens comme ça sur les terres de l'enfance pour expliquer un peu ou travailler mes personnages. Et il y a cette image à un moment donné dans le livre d'Agnès comme quoi l'enfance serait en fait une boule close sur elle-même de certaine manière et close une fois pour toutes, mais qui est centrale de nos existences et de nos êtres et voilà, c'était comme ça que je l'ai entendu.
Agnès,
rien à ajouter. J'étais si enfin c'est pas à ajouter, mais c'est sur le fait que c'est très étrange quand on parce que on écrit on se voit rarement. On se lit mais on ne se voit pas, on ne se parle pas, et c'est très troublant quand on lit le livre d'un camarade écrivain d'y voir des choses, par exemple la présence de la nature et la spécificité du rapport à la forêt, pas seulement la nature mais la forêt, ce qui est très très présent dans La Nuit Brune et très présent dans Le Cœur Régulier, comme vraiment le lieu du refuge, le lieu de l'enfance protégée, du havre. C'était assez frappant. C'est une étrange et agréable coïncidence.
Alors justement, la forêt, je comptais vous poser la question un tout petit peu plus tard, mais je pense qu'on y reviendra. C'est vrai que c'est frappant à la lecture de vos deux livres. Il y a aussi cette histoire d'enfance du personnage principal dont j'aimerais que vous nous parliez un petit peu pour que les personnes puissent comprendre justement en quoi elle est si importante, cette enfance. Donc peut-être Agnès de Sartre.
Le personnage qui s'appelle Jérôme, au départ quand j'ai commencé le livre, je n'avais comme élément sur lui que le fait qu'il était le père d'une jeune fille, et cette jeune fille perdait son amoureux dans un accident de moto. C'était les seules données que j'avais, les seules données biographiques. Et assez vite, quand j'ai commencé à réfléchir à ce trio, un père, une fille et l'amoureux mort, une information m'est venue d'un endroit mystérieux qui est l'endroit où les livres se fabriquent. De temps en temps, je reçois comme un téléx et je reçois une information assez vite. J'entends dire que Jérôme est un enfant trouvé. Alors ça peut paraître bizarre, cette histoire de recevoir une information, et moi c'est souvent comme ça que mes personnages se constituent. J'amorce quelque chose et ensuite il se révèle à moi au cours de l'écriture sans que j'ai besoin de faire tellement d'efforts. Enfin, l'effort que je devais produire après, c'était une fois que j'avais cette information, Jérôme est un enfant trouvé, il fallait que je comprenne où, comment, pourquoi, par qui. Du coup, j'ai engagé un inspecteur de police à la recherche, à la retraite, qui est un personnage important du livre, pour m'aider à avancer dans cette énigme. Donc, quand je me suis posé la question de l'enfant trouvé, ça a fait écho très vite à un terme presque jumeau voisin qui est enfant caché. Enfant caché faisait référence à la Seconde Guerre mondiale, aux enfants juifs qui étaient cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le livre a commencé à se construire à partir de ces pistes-là. Mais il fallait encore que je trouve où Jérôme avait été trouvé. Et c'est venu assez vite, cette image de la forêt s'est présentée. Et là est venu se greffer à ces informations une sorte forme de rêverie autour de l'enfant sauvage. C'est-à-dire que Jérôme, dans cette histoire, est un enfant qui a vécu seul ou presque dans la forêt de 0 à 3 ans, avec le secours d'une mère qu'il avait cachée là, suppose-t-il, parce qu'on ne sait rien. Tout ça, c'est les reconstructions que fait Jérôme quand il se met à se poser des questions. Il a vécu pratiquement seul dans une forêt de 0 à 3 ans, et âge auquel sa mère, qui s'occupait de lui comme elle pouvait, en cachette, clandestinement, un jour elle est plus venue. Donc il a bien fallu qu'il se trouve des parents. Donc d'une certaine manière, c'est pas un enfant trouvé, c'est presque plutôt un enfant qui a trouvé des parents. Il s'est trouvé des parents dans la forêt. Donc voilà pourquoi la forêt, voilà pourquoi l'enfance.
Olivier, en fait, même question à propos de l'importance de l'enfance dans la vie de Sarah et de son frère Nathan, puisqu'ils ont partagé cette enfance.
Oui, de toute façon, vous parliez de l'attachement à la famille en soi. Enfin, chez moi, en l'occurrence, c'est pas un attachement. C'est pas que je trouve ça bien ou pas bien. C'est plus que mon objet de travail étant, on va dire, le commun. Le commun à la fois en termes de strates sociales, à la fois en termes de vie concrète des personnages. Je considère toujours qu'en gros, à 80% des gens, c'est pas que je trouve ça bien ou pas, mais en gros, à un moment donné, on grandit dans une famille, ensuite on grandit, on rencontre quelqu'un, on s'installe dans un appartement, puis une maison si on a un peu de sous. On travaille, on fait des enfants, on refonde un foyer. En gros, c'est la vie que mène à peu près tout le monde, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que précisément que ça m'intéresse, non pas de savoir si c'est bien ou pas bien de mener cette vie-là, mais simplement de savoir comment on fait. Et là-dedans, en fait, à l'origine de ce livre-là, il y avait cette idée. Je pense souvent des frères et des sœurs très proches en termes d'âge. C'est pas une donnée biographique, c'est pas une passion pour la fusion frère-sœur. C'est plutôt que ce qui m'intéresse, c'est comme un petit laboratoire au début, hein, parce qu'après j'investis tout ça de sentiments, d'attachements et tout ça. Mais au début, c'est comme un petit laboratoire. Je me dis, voilà, deux personnes qui ont un an de différence, un an et demi. En gros, elles ont été soumises aux mêmes pressions. Elles ont grandi dans le même environnement social, avec les mêmes parents, avec à peu près, bon, même si on n'arrive jamais à élever ses enfants à égalité, on se le dit, je ferais autant pour les uns que pour les autres, mais on le fait jamais. Mais bon, enfin, en gros, à peu près avec le même taux d'amour ou de désamour, de silence ou de non-silence, et de voir comment finalement d'une enfance commune et très, avec même des caractères très proches, en l'occurrence. Puisque c'est Sarah et Nathan, c'est deux enfants perdus dans la froideur du monde, quoi. En gros, c'est l'image de deux enfants qui se réfugient, qui se serrent dans les bras, comme si dehors c'était la guerre. Enfin, pas une guerre réelle, mais comme si l'extérieur était lié à la peur, quoi. C'est aussi deux personnes qui se sentent complètement soit trop, soit pas assez, qu'on peur d'être qu'on peur qu'on les remarque, qu'on peur qu'on les remarque pas, enfin qui sont pas très bien armés, qui savent pas comment s'en sortir, et qui se réfugient l'un avec l'autre et qui se réfugient souvent voilà, enfin ils habitent en gros là où j'ai grandi, en banlieue parisienne, et où il y a la forêt de Sénart, et en fait voilà, c'est leur quitter les rues pavillonnaires ou les rues des cités pour se retrouver juste tous les deux dans le silence de la forêt et où ils se sentent en fait protégés du monde. Et l'idée, voilà, c'est en travaillant cette espèce d'enfance commune et très proche, de voir comment les trajectoires en fonction de peuvent différer, voilà, en fonction de est-ce qu'on répond de la manière dans laquelle on répond ou non aux injonctions familiales, sociales, de la manière qu'on a de résister ou non à tout ça, qu'on a de se suivre. Donc c'est un peu ce rôle-là au début. C'est presque un rôle de laboratoire un peu rigide au début. Et puis à un moment donné, les personnages assouplissent tout ça et le rendent vivant. C'est-à-dire que vous partez sur des principes, et puis à un moment donné, ce qui gouverne les livres, ce sont des personnages qui vont être presque autonomes et qui vont, par leur caractère propre, remplir ça de vie, de sentiments, etc.
Oui, et en même temps, ils ont un rôle actif, bien sûr, mais ils ont aussi un rôle de souvenir qui peut enjoliver ou au contraire assombrir cette réalité. Sarah s'interroge beaucoup sur le lien affectif qu'elle a eu avec Nathan et sur la raison pour laquelle effectivement à un moment il y a eu divergence, leurs vies se sont écartées. On a l'impression qu'elle est à cheval entre deux mondes, c'est-à-dire oui, qu'elle a trahi Nathan, qui est un personnage complètement entier, maniaco-dépressif alcoolique si on veut, ça c'est une étiquette, mais bon, qui est un personnage totalement dans la fulgurance, etc., alors qu'elle a une petite vie bien rangée, et on sent qu'elle oscille entre les deux. Peut-être qu'elle a oscillé entre les deux pour faire son choix de vie, mais en tout cas, dans le souvenir qu'elle a de son enfance, il y a beaucoup aussi cette hésitation, non ?
Ben oui, c'est-à-dire que Nathan, qui est un personnage comme ça, un peu inflammable comme ça, qui est toujours... c'est un peu l'adolescent éternel. Et il est cet adolescent qu'on a tous en nous, et qui des fois nous réveille la nuit et nous dit... bon, alors... Ils nous disent ce que les adolescents nous disent quand on les élève, commencent à nous dire, mais ah bah c'est ça, ta petite vie, t'es englouti par le canapé, petit travail, la petite voiture, etc. C'est le petit confort et tout ça. Et choses qui sont à la fois vraies, et puis à la fois intenables, et puis parce que moi, je suis, par exemple, Nathan n'est pas mon porte-voix dans le livre. Mon idée est plutôt de se dire, au fond, Nathan, il pose une question à Sarah, c'est comment on compose avec la vie en général, quoi. Comment on compose? Alors, il lui reproche d'avoir un boulot, de faire un boulot qui apporte de l'eau au moulin du grand capital, etc. Et tout ça. Moi, mon problème n'est pas de savoir si Sarah a eu tort de faire ça ou pas. Mon problème est de savoir, c'est elle-même, comment ça la réveille la nuit. Comment le travail nous réduit et comment, par exemple, on essaye de tous trouver des marges de manœuvre pour le rendre acceptable, habitable, et en faire quelque chose. Donc, ce qui fait qu'il y a ce retour permanent comme ça à l'enfance, c'est à la fois cette cellule initiale de ces deux adolescents très proches l'un de l'autre et qui ont rêvé à tout ce qui ne serait pas. Et le fait que Sarah est devenue pas par lâcheté ni paresse, mais par chemin extrêmement naturel. Et ses parents, comme tous les parents, avaient peur, parents des classes moyennes, hantés par l'idée du déclassement, le fait que si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes foutu dans cette société. Donc ils lui ont dit de faire un diplôme, de faire un travail sérieux. Ils lui ont indiqué, et elle l'a suivi, comme normalement, quoi. Les voies de la réussite, entre guillemets, sociale, qui ne pose jamais la question de la réussite réelle, enfin oui, de vie, quoi, tout simplement. Elle a épousé un type qui était plutôt gentil, c'était pas le grand amour, mais en même temps, on nous répète à longueur de journée que ça n'existe pas, donc on dit bon, bah voilà, c'est pas un mariage de raison, mais ils s'aimaient bien, ça marchait bien, ils se sont installés, mais comme des tas de gens, quoi, tout simplement. Et puis voilà, à 40 ans, à l'occasion d'un moment très particulier, qui est la mort de ce frère tant aimé, et en même temps qui est un espèce de miroir comme ça, dérangeant en permanence, cette espèce de mauvaise conscience, bah, il y a un moment donné où vous mettez tout sur la table et vous vous dites, attends, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et immanquablement, qu'est-ce que j'ai trahi, voilà, ce truc de se sentir en train de devenir celui qu'on s'était, ou celle qu'on s'était juré de ne jamais être, quoi. Voilà.
Donc, d'où l'idée de partir au Japon pour se rapprocher post-mortem de ce frère, Nathan, puisqu'il n'est pas là, quelque part ils se sont séparés. À l'issue de sa mort, elle va tenter de se rapprocher de lui et de la période bénie de l'enfance où ils étaient tous les deux, en partant aussi loin.
Oui, enfin en tout cas, les circonstances l'amènent à penser qu'il y a des réponses là-bas pour elle, à la fois, au début, elle pense que ce sont des réponses sur Nathan et sur l'incertitude première sur laquelle souffre ce livre, c'est-à-dire que Nathan a fait le coup du platane. Et le coup du platane, il y a nécessairement le doute permanent de savoir si c'est une mort volontaire, une mort accidentelle, surtout pour un type comme Nathan qui avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et qui était réputé... Ouais,
c'est ça que, effectivement, je vais un peu expliciter, parce que Nathan, effectivement, donc Sarah apprend la mort de Nathan dans un accident de voiture. Le coup du platane, effectivement, est-ce un accident, est-ce un suicide? La question est là, sachant qu'effectivement, Nathan a fait des tentatives de suicide et c'est pour ça qu'il est allé au Japon. Voilà, parce qu'on l'a pas encore dit.
Enfin bon, il s'est retrouvé au Japon. Et en fait, au Japon, il est descendu très très bas, et puis il est semble-t-il remonté. Il a fini sa longue descente là-bas pour remonter vers la lumière, et cette remontée, elle s'est faite parce que un inconnu qui ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui n'avait aucune raison d'intervenir a priori, a posé sa main sur son épaule. Et en fait, en gros, la question qui se pose aussi pour Sarah, c'est qu'est-ce qu'on fait de la douleur des autres, et notamment de nos proches. Qu'est-ce que c'est au fond que de, à un moment donné, se détourner de la douleur béante de quelqu'un qui est auprès de nous, mais qui, au fin, eh ben on fait comme tout le monde, il y a un moment donné où d'abord on s'en occupe un peu, puis il y a toujours un moment donné où on est tenté de s'en détourner, on s'invente des tas d'excuses parce qu'il faut se protéger les enfants, vivre sa vie, etc. Et à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui a fait ce qu'elle n'a pas su faire ces dernières années, c'est-à-dire qui a mis la main sur l'épaule de Nathan et qui lui a offert du temps, de l'écoute et de quoi se retaper au fond.
Alors, on va parler de ce personnage qui est très important au Japon. On va en parler. Mais déjà, on va revenir peut-être justement à cette histoire de forêt, parce que et d'éléments naturels qui sont vraiment très très présents dans vos livres et extrêmement bien décrits. C'est très beau. La forêt, alors, vous, Agnès de Sarthe, effectivement, elle a un rôle prépondérant dans ce livre, puisqu'on peut dire que c'est le berceau de Jérôme, qui a été donc un enfant des bois, tel que vous l'appelez, pendant 3 ans. Alors la forêt, évidemment, c'est un lieu complètement mythique, c'est le lieu aussi des contes. On sait que vous avez écrit des contes pour enfants, c'est un lieu initiatique. Je pose cette question, mais je vous la pose à vous aussi, Olivier Adam, puisque on l'a dit, Nathan, allaient se réfugier ensemble aussi dans les bois ou dans la forêt, même si c'est pas la même. Quelle importance a pris la forêt dans votre livre respectif? Est-ce que c'était d'emblée un élément fondateur du livre, ou bien est-ce qu'il est arrivé comme ça, un peu au hasard?
Alors, en ce qui me concerne, la forêt, elle a été très vite présente à cause de ce système d'écho enfant trouvé, enfant caché, parce que enfant caché a forcément fait revenir à la surface de ma mémoire des histoires qu'on m'avait racontées d'enfants ou d'adultes aussi qui avaient vécu dans la forêt pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis de livres aussi que j'avais lus de personnes échappées de camps de prisonniers ou de camps de concentration qui avaient passé de longs moments dans les bois. Donc il y avait la présence de la forêt, de cette forêt-là, elle était incontournable. Après, c'est pas tout à fait cette forêt-là dans laquelle Jérôme a été caché. C'est une autre forêt, c'est à une autre époque. Mais la forêt de Jérôme fait écho à cette forêt. Et il y avait aussi un fait beaucoup plus, comment on peut dire, anecdotique et anodin, qui est que je marche énormément dans la forêt seule. Et je pars pour, je sais pas, 2-3 heures. Et je marche très vite, et c'est pendant ces marches-là que je réfléchis et parfois que j'écris mes livres. Donc la forêt, elle est liée aussi à l'écriture. Il y a des tas de moments dans ces promenades qui sont très solitaires, où je croise des animaux avec lesquels il y a des échanges très brefs, hein, mais d'une grâce incroyable, et ça reste, c'est des moments qui restent. Et aussi les livres, ils sont peuplés de personnages, comme le disait à l'instant Olivier, les personnages prennent le pouvoir, les personnages font leur vie dans le livre, et on est sans arrêt en contact avec des douleurs, des chagrins humains quand on écrit. Donc on est à la fois très seul physiquement, moralement, et en même temps on est sans arrêt en contact avec la rumeur du monde, la douleur du monde. On est très très réceptif à tout ça. Donc c'est le monde intérieur de l'écrivain, il est très très agité et très hérissé de figures humaines, et le fait de pouvoir couper ça et calmer ça avec le rapport à la nature vide d'homme, vide d'humain et vide d'affect humain, c'est extrêmement salutaire. Donc ça, c'est un rôle plus anecdotique, mais enfin, il existe aussi.
Olivier?
Au fond, le livre est quasiment né de cette idée de la nature, hein. Parce que d'abord, le Japon que visite ce livre, c'est pas le Japon des mégalopoles hyper modernes et tout ça, même si Tokyo est une ville passionnante et tout ça, mais c'est le Japon qui, moi, m'a touché et bouleversé, enfin au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il a changé des choses en moi, qui est le Japon à la fois immémorial et totalement contemporain, des campagnes, des montagnes qui sont toutes plus sacrées que les unes que les autres. Hein, c'est, ils vous mettent un torii à l'entrée de la montagne pour vous signifier que dans la religion Shinto, c'est une demeure des messagers des dieux et tout ça. Et quand vous gravissez cette montagne boisée, vous avez l'impression que l'endroit est effectivement habité, et quand vous arrivez en haut, face au ciel absolument pur, vous avez l'impression que quelque chose va vraiment vous laver. Enfin, en tout cas, voilà, il y a cette idée à la fois très bretonne et très japonaise que les forêts, les endroits de nature sont
les falaises et la mer également.
Oui, mais dans ce livre-là, la mer et la falaise sont pas comme d'habitude un endroit où on va nettoyer son chagrin. C'est plutôt l'endroit auquel
on est face.
Enfin, c'est l'endroit du danger. Ce qui est le contraire de mon livre précédent. Là, c'est vraiment quand on tourne le dos à ce bord extrême du monde et donc de la vie aussi, et quand on va revenir dans le cœur grouillant, vivant, enchanté, magique des forêts. Je fais le lien avec les légendes bretonnes et où je vis, enfin que je vis en Bretagne, et la religion shintoïste qui rend ces endroits extrêmement habités, mystiques même, sans compter que les temples bouddhistes sont en général dans les premiers contreforts des vallons, et donc sont cernés eux-mêmes d'arbres. Et au fond, il y avait ce système d'écho là aussi entre ce refuge initial de Nathan et de Sarah quand ils étaient enfants dans la forêt proche de l'endroit de banlieue où ils vivaient, et cet endroit où Sarah débarque et où elle cherche ce que le titre indique, c'est-à-dire le cœur régulier. Et la présence pacifiante de la nature, c'est pas une donnée en soi. D'abord, ça marche pas pour tout le monde, et ensuite, c'est pas une donnée en soi. Il y a dans ce retrait du temps, du bouillonnement, ce côté pacifiant, il y a quelque chose qui vous est offert. Les lieux sont disponibles, mais il y a aussi un travail intérieur qui consiste à se rendre disponible à ces lieux. Si vous voulez, moi, par exemple, là où je vis, je vois toujours ces paysages extraordinaires de bord de mer qui sont censés me laver, dont je dis souvent dans mes livres qu'ils me lavent, mais tous les jours, être à la hauteur de ces lieux-là et faire en sorte qu'ils vous lavent et faire en sorte de vous connecter à eux et donc de vous reconnecter à une pulsation intérieure plus lente, plus profonde, c'est aussi un travail de dépouillement, un travail de tri, un travail de... Voilà. Et c'est un peu ce que raconte le livre, c'est-à-dire que l'endroit dans lequel elle débarque, il est figé dès le début, et elle n'en sort pas, et elle va y trouver une forme de paix par un espèce de système de connexion à ce monde naturel, qui passe à la fois par la spécificité de ce monde naturel, ces décors-là, ces temples-là, ces sanctuaires-là, ces montagnes-là, de ce Japon-là, mais aussi par le trajet du livre qui va être... Au fond, à force d'y voir clair et de se délester de certaines choses d'elle-même, de pouvoir enfin être disponible à la respiration de ces lieux-là, et donc à la régularisation de son battement de cœur. Donc, le livre est en lice pour le Gongro des lycéens. Là, et alors, j'ai déjà des échos des gamins qui trouvent qu'il y a trop de descriptions. Ce qui est la maladie des gars, c'est trop de descriptions de toute façon. C'est, je sais pas, ils ont été traumatisés par Balzac ou je sais pas quoi. Mais et donc, il se trouve. Mais bon, il y a aussi des gens qui sont plus des lycéens, comme Frédéric Becbédé, par exemple, qui me reprochent la même chose. Donc comme quoi, mais peut-être qu'il a un niveau de lecteur de lycéen en même temps. Mais bon. Mais la question est que, enfin, sans doute même. Mais la question dans le livre était que on dit souvent, oui, enfin c'est souvent un truc presque balancé comme ça, oui, la nature est un personnage dans les livres et tout ça. Là, ce qui me frappe dans les deux livres, c'est que, enfin, en admettant qu'on ait réussi notre coup chacun, enfin Agnès a magnifiquement réussi, les pages sur la forêt sont sublimes, c'est vraiment une présence vivante dont l'idée est de faire comment dire, il s'agit pas de décrire ces endroits, mais il s'agit d'essayer de faire partager au lecteur ce qu'ils produisent sur le narrateur. Voilà. La sensation qu'ils produisent sur eux, voilà. D'être dans la sensation de ces lieux-là. Donc c'est presque à l'origine du livre. Hein. Moi, souvent, je dirais que Les Vents Contraires, je l'ai écrit pour faire travailler la sensation de ces endroits de Bretagne sur le narrateur, et qu'après, faut raconter des histoires pour que tout ça existe, quoi. Et là, c'est un peu pareil. C'était travailler cette sensation-là de la nature, de ce Japon-là. Oui. Et puis après, il a bien fallu mettre des personnages et des intrigues pour que ça... Voilà. Moi, je finirais comme un peintre du dimanche, de toute façon, à faire des marines ou des, je sais pas ce qu'on appelle, pour les forestières, je sais pas qu'on appelle ça quand on dessine la forêt, avec rien autour.
Forestières, vous pouvez créer un genre.
Ouais, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que je vous rassure, je les garderai dans mes tiroirs. Je vous ferai pas subir ça.
Alors, on va reparler du Japon et notamment de ce personnage très important qui s'appelle Natsume, qui est un personnage réel, enfin. Il y a un personnage comme ça, voilà, au Japon, qui empêche les gens de se suicider, de se jeter du haut d'une falaise, dont il est question aussi dans votre livre. Simplement, puisqu'on a effleuré un peu la question du titre de vos livres, ben, j'aimerais qu'on y revienne. Agnès de Sarthe, donc, dans La Nuit Brune, le titre est extrait d'un poème dont une strophe est citée d'ailleurs. Je vous laisse nous expliquer comment vous avez trouvé ce titre et choisi surtout.
Alors, donc ce poème, c'est un poème que j'ai appris quand j'étais petite et que beaucoup de gens de ma génération, je crois, connaissent, mais je le dis quand même. Donc c'est « La biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux. Son petit fan délicieux a disparu dans la nuit brune. »
Il y a des personnes qui le connaissent par cœur et qui le récitent en même temps que vous, là, à l'instant. Oui.
Et donc il y a une deuxième strophe qui est très belle aussi, mais vous la lirez tout seul. Et donc ce poème est un moment du livre. Jérôme veut faire doit faire un cadeau pour la fête des mères à la femme qui fait office de mère pour lui, c'est-à-dire la femme qu'il a adoptée quand il avait 3 ans, mais qu'il n'a jamais appelée maman, qu'il a toujours appelée par son prénom, Annette. Et il ne sachant pas quoi lui écrire, parce qu'il essaye de faire un poème, mais avec une rime en « ette », puisqu'elle s'appelle Annette, il trouve que des choses comme « bête », ou donc il n'y arrive pas. Et donc, en désespoir de cause, il recopie le poème qu'il a appris à l'école. Et donc, elle lit ce poème, cet extrait de poème, Annette, elle lit « La biche qui brame et le petit fan délicieux qui a disparu dans la nuit brune ». Et il a écrit « Pour maman ». Et donc, lui pense que... Et elle se met à pleurer en lisant ce poème. Et lui, il pense qu'elle pleure parce qu'il a écrit pour maman alors qu'il ne l'appelle jamais maman. En fait, c'est beaucoup plus compliqué et ambigu que ça. Le fan disparu dans la nuit brune réveille d'autres échos chez Annette. Et ça, on va le découvrir à la fin du livre. Mais en tout cas, quand j'ai cherché un titre pour le livre, il m'a semblé que ce moment d'équivoque entre l'enfant qui ne comprend pas pourquoi sa mère est émue, mais sa mère est très émue à cause d'un secret, et que c'est justement ce secret qui va faire que lui-même va être coupé de son histoire, va être le personnage désarmé, désemparé qu'il est. Je me disais que c'était assez intéressant d'avoir ça à l'entrée du livre, puisque le titre, c'est l'entrée du livre. Et alors, en plus, il y avait cette évocation possible par le simple adjectif brun.
Brune,
il y a une association d'idées immédiate pour certaines personnes avec les chemises brunes, la nuit brune, c'est le fascisme et le nazisme. Donc, c'était aussi une façon de mêler sans que ce soit trop distinct une nuit qui était possiblement une nuit dans une forêt brune d'automne avec juste le brun comme adjectif de couleur, quoi, juste pour dire voilà, c'est la description d'une couleur. Et puis, mais c'est aussi la description d'autre chose, puisque dans le livre, on est toujours entre ces deux données, quoi. Ce qui est, ce qui paraît évident, et puis ce qui peut être caché derrière. Donc voilà pourquoi, pourquoi ce titre.
Il y a une expression qui revient aussi à plusieurs reprises, c'est « nous sommes tous des résistants », ou le mot « résistant » en tout cas, qui là aussi peut être pris à double sens. On peut résister à une situation de vie difficile, mais ça évoque aussi, enfin c'est comme la nuit brune, quoi, je suppose.
Oui, oui, et c'est dit à plusieurs moments, il y en a plusieurs, c'est une phrase qui revient dans la bouche de plusieurs personnages, « nous résistons tous ». Et alors, bien sûr, vu le incertain contexte de ce livre, c'est une évocation de la résistance. Mais après tout, la résistance, avec un grand R, comme on dit l'histoire avec un grand H, c'est aussi un mouvement dont a été capable l'humain, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, enfin, tout ces peuples d'Europe, à un moment, ont trouvé en eux la capacité de résister. Et pour moi, c'est une vertu à laquelle je voulais rendre hommage et qui est présente à petite dose, malheureusement parfois trop petite, mais en chacun de nous. Et c'est vrai que là, il y a encore une fois un double contexte, puisqu'il y a le contexte du chagrin d'une jeune fille qui vient de perdre son amoureux, et qu'est-ce qu'on fait là? Elle voudrait mourir normalement. Elle devrait mourir, et elle se dit, je devrais mourir d'amour, mourir de chagrin, et puis je suis là, je vis quand même. Alors qu'est-ce que je fais quand je vis quand même, alors que je devrais pas avoir survécu à ça? Je résiste. Alors qu'est-ce que c'est que cette forme-là de résistance? Bon, c'est une cousine de l'autre forme. Donc il y a aussi, bien sûr, ce double sens.
À ce sens-là, justement, Olivier Adam, on peut dire aussi que Sarah, quelque part, résiste, hein, à ce qu'elle a vécu.
Oui, enfin, en tout cas, le livre pose la question de ce que ça peut signifier que rester en vie, quoi. Le livre s'intéresse à ceux qui restent, disons que moi, je pars du principe que il est acquis que on va tous tomber un moment ou trébucher. Il convient d'examiner les conditions dans lesquelles on se relève, voilà, et de comment on se relève, comment ça s'opère. Et dans le livre, il y a en plus ce moment posé à plusieurs endroits où, à partir du moment où vous résistez à la tentation du suicide, parce qu'il est question de ça.
Ouais,
c'est pas un livre sur le suicide, c'est une question sur la résistance, ouais, à la tentation du suicide. À partir de là, qu'est-ce que ça signifie vraiment rester en vie? Est-ce que c'est survivre ou vivoter, ou est-ce que ça peut être aussi tenter d'être pleinement en vie, tenter de s'extraire du temps social, des obligations, du quotidien, enfin de s'en extraire par moment, par épiphanie, dans les failles, tout ça, pour tenter en même temps au milieu du fer, d'interroger de temps en temps un peu l'être, quoi, pour aller vite, hein, mais c'est rapide, hein, de dire ça, mais bon, en gros, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qu'est-ce que ça peut signifier vraiment qu'être pleinement en vie. Nathan, il a pensé longtemps que être pleinement en vie, ça voulait dire brûler. Ça voulait dire vivre sur le nerf. Ça veut dire ne jamais dormir, tout tenter, faire tout pour sentir le monde et se sentir en vie le plus possible, se bourrer la gueule, pratiquer l'écriture, enfin tout ce qui le mettait en contact plus intense, quoi, hein, l'amour, le presque ça passait par quelque chose de physique. Et il n'a ni échoué ni réussi, mais il a tenté ça. Pour Sarah, être pleinement en vie, ça va passer plutôt par, à terme, par une idée d'accord, une idée de réconciliation, une idée de respiration. Voilà, tout, tout est affaire de respiration, d'essayer de trouver la respiration et le battement de cœur idéal. Il y a pas de réponse unique. Hein. Il y a des gens à qui cette réponse de la réconciliation serait insupportable parce que ils sont plus faits pour brûler d'une certaine manière et vice versa. Voilà, c'est pas.
Il y a ce personnage, donc on y vient, hein, Natsume, qui est une sorte d'ange gardien. Il habite là, il est auprès de la falaise, il veille à ce qu'aucun désespéré ne se jette du haut de cette falaise, qui est une falaise donc particulièrement prisée, le mot est peut-être mal choisi, mais par les gens qui veulent se suicider. Hein, je pense qu'elle est peut-être particulièrement vertigineuse, ou elle a, je ne sais pas pourquoi, c'est cette falaise et pas une autre. Mais
c'est un lieu qui existe, hein, qui s'appelle Tojimbo, et au Japon, quand vous dites aux gens Tojimbo, ils ont un mouvement de recul. Parce qu'à la fois, c'est un lieu très célèbre en termes de géographique et d'esthétique géographique, c'est un peu l'Étretat japonais pour les vies, c'est vraiment un endroit très très... impressionnant en termes de ce sont des espèces de roches concassées qui tombent dans un endroit très désertique, qui tombent évidemment à la verticale dans l'eau, sans quoi ce serait pas des falaises, mais y a un mouvement de recul parce que c'est un endroit un peu morbide, quoi. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de Japonais viennent s'y suicider.
Et ce monsieur Yukio Shige, donc, voilà. Alors existe lui, réellement.
Oui, alors lui, c'est un flic, hein, un ancien flic, qui était responsable de ce district de Tojimbo, qui est en gros une station balnéaire, enfin, si on peut dire, extrêmement calme, à 200 mètres de ces falaises. Et donc, sa vie professionnelle a été, en gros, longtemps vouée au décompte des morts, prévenir les familles, ramasser les corps et tout ça. Ce en quoi il a toujours considéré, ou en tout cas je lui fais considérer dans le livre, qu'il arrivait toujours trop tard. D'ailleurs, il dit même que, étant dans les forces de l'ordre et la police, au fond, on arrive toujours trop tard quand il faut réparer des dégâts avérés, quoi. Et quand il est arrivé à la retraite, il a d'abord tenté d'alerter les pouvoirs publics, à la fois sur ce problème du suicide au Japon, ce qui était un peu... ambitieux et plus modestement sur le problème de Tojimbo, du taux de suicide à Tojimbo. Évidemment, tout le monde l'a envoyé paître. Il a dit bon, vous êtes bien gentil, mais de toute façon, les causes sont tellement énormes, en tout cas pour celles qui sont non personnelles, mais pour les causes collectives, les causes politiques presque du taux de suicide dans certains pays. Il faudrait une remise à plat complète de la société quasiment. Donc et en fait devant ce silence assourdissant, pardon, il s'est dit au fond je vais faire ce qui est en mon pouvoir d'homme. Voilà. Il y a un truc, c'était son métier et la mort, un film, et lui son métier c'est la vie. Donc ce qu'il a fait, c'est que il s'est mis à arpenter les falaises. Et quand il à des moments qu'il avait déterminé comme étant particulièrement propice au suicide, et quand il voit quelqu'un qui est sur le point de se jeter, il s'approche de lui, il lui met la main sur l'épaule, ce geste vraiment très parlant, et il lui dit « Est-ce que vous pourriez m'accorder une minute ?» À tel point qu'au Japon, il répond au sobriquet de Mister One Minute. Et faisant ça, évidemment, il brise l'instant précis où toutes les conditions étaient réunies, à la fois de douleur immense et de courage, enfin, mais aussi il s'arrête pas là parce que il sait très bien qu'il a fait qu'un petit bout du chemin, c'est qu'il ramène les gens à son association, il leur sert rituellement un thé et une galette de haricots rouges, un thé vert, un galette de haricots rouges, il les écoute, il parle avec eux et pour une bonne partie, il les ramène chez lui et il les garde chez lui, les héberge. Il les nourrit, il les aide des fois à reprendre contact avec leur famille, des fois à retrouver du travail, des fois tout simplement des fois il leur permet de faire le tri, de prendre du temps, il leur offre ce que plus personne n'offre à personne, à savoir du temps et de l'écoute. Et moi quand j'ai découvert l'existence de ce personnage par le truchement d'un article dans Libération, j'étais au début de mon livre comme Agnès au début du sien avec quelqu'un quelque part, deux trois thèmes, mais je savais vraiment. Enfin, moi j'avais Sarah réfugiée dans un village où il y a des temples, des sanctuaires dans la campagne japonaise, Je pars du principe que si cette image me hante à ce point-là, c'est que Sarah et cet endroit ont des choses à se dire, que Sarah a des choses à me dire et que cet endroit a des choses à me dire. Et que l'écriture du livre, ça va être mener l'enquête sur qui c'est, qu'est-ce qu'elle fout là et qu'est-ce que tout ça a à me dire. Et à un moment donné, quand même, il faut avoir un truc qui vous mène quelques pages plus loin, quand même. Et là, ça a été ça. Ça a été clair dès que j'ai lu l'article. Je l'ai fait lire à ma compagne qui m'a souri. On n'a même rien eu besoin de se dire. C'était l'évidence que Sarah, elle cherchait ce type-là qui avait des réponses à lui donner, à la fois sur son frère et sur elle-même, et que j'ai appelé le sauveur. Parce que non seulement il avait sauvé son frère et plein d'autres gens, mais parce qu'il allait la sauver. Du moins parce qu'elle était persuadée que elle, c'était la seule personne à pouvoir le sauver. Quand j'ai lu l'article, c'était vraiment cadeau, quoi. Il y avait des falaises, donc c'était très dans mon truc. Il y avait du Japon, j'étais c'était au Japon. Élément, oui. Il y avait du suicide, donc tout le monde connaît mes thématiques extrêmement gaies et joyeuses. Et il y avait surtout la question qui agite mes trois derniers livres, enfin Les vents contraires, l'abri de rien, c'était qui s'occupe de qui.
Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Enfin, le thème voilà. De la solidarité ou de l'entraide. Oui.
Ça répond à la même question, c'est-à-dire dans un monde, qu'on soit au Japon ou en France, où l'individualisme, la compétitivité, la rentabilité, la violence économique, tout ça sont à l'œuvre, et où parallèlement la solidarité collective est bafouée, insultée. On appelle ça de la cistana avec des moods d'égout et tout ça. Où coupé dans ses moyens ou de plus et débordé par le champ à couvrir, qui s'occupe de qui prend en charge ce qui tombe, puisqu'il est avéré qu'on va faire tomber des gens en marchant de cette manière-là. Et ça rencontrait l'écho beaucoup plus intimiste avec l'idée dont je parlais tout à l'heure, à savoir entre un frère et une sœur. Qu'est-ce qu'on fait de la douleur des autres? Qu'est-ce qu'on fait de la douleur de notre voisin, de notre frère, de notre compagne, ou je sais pas quoi. Alors dans à l'abri de rien, ça prenait une forme associative, ces associations qui venaient au secours, si on peut dire, des migrants près de Calais. Dans les vents contraires, ça prenait une forme familialo-voisinage, mélange des deux. C'est cette espèce, moi, qui me touche beaucoup, l'idée simplement d'une espèce de communauté de gens qui vivent les uns à côté des autres, les uns avec les autres, et qui simplement s'entraide, quoi. Enfin, je trouve l'entraide, c'est un beau mot. Et là, ça prend une figure presque héroïque de la responsabilité individuelle aussi, à un moment donné, de face à une question de faire ce qu'on a à faire. Et qui est ça, un héroïsme réel, parce que la plupart d'entre nous, et moi le premier, on reste dans notre fauteuil, bien sûr.
C'est-à-dire qu'avec les temps qui courent, comme on dit, vous allez avoir de plus en plus de sujets pour vos livres dans ce domaine-là.
Oui, enfin ça c'est sûr que on peut, enfin de toute façon, même quand j'écris un livre où j'emmène les personnages au Japon pour vivre au milieu des bois, je finis par c'est plus fort que moi, je finis par m'interroger sur le collectif, sur les questions sociales, etc. Donc c'est vrai que là on a du enfin, si ça continue comme ça, ce que je souhaite pas, c'est vrai que j'ai du travail pour longtemps, quoi.
On vous le souhaite pas et on ne nous le souhaite pas à nous-mêmes, hein, surtout, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Agnès de Sarthe, alors évidemment il n'y a pas de Natsume dans votre livre, mais il y a aussi des personnages un peu anges gardiens. Il y a ce commissaire à la retraite qui est un personnage aussi très particulier, et il y a une dame au nom assez imprononçable, j'ai oublié,
Vilno Smith.
Voilà, Vilno Smith, qui est une dame étrangère et qui va, elle aussi, à sa façon, elle est perdue, mais elle va de toute façon faire quelque chose finalement pour Jérôme. Comment est-ce que vous avez construit ces personnages? Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'il fallait quelqu'un pour l'aider? Voilà.
L'inspecteur à la retraite, je pourrais dire, si jamais nos livres n'étaient pas sortis à la même date, que c'est parce que j'ai lu le livre d'Olivier Adam, alors je me suis dit, tiens, c'est bien, inspecteur à la retraite, moi aussi je vais en faire un. Mais en fait, pas du tout. On ne s'est pas consulté, là encore. Voilà, c'est assez drôle. Et ce personnage, il est arrivé parce que Ou quand j'avais mon trio au début du livre, le père, la fille et l'amoureux mort, je pensais que ça suffisait comme ça. J'avais déjà tué un jeune homme à la page 1, ce qui n'est pas du tout mon style. Et je me disais, bon, ça suffit. Et puis par une nuit d'insomnie, je me suis rendu compte, je ne sais pas très bien comment, qu'il y avait beaucoup d'autres morts dans ce livre. C'était une intuition. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire avec tous ces morts? Puis qui sont-ils? Je ne savais pas. Et puis je me suis dit, tiens, mais quand il y a des morts, quand on ne sait pas qui c'est, ça m'a replongé en fait. C'était vraiment une insomnie. Donc dans les insomnies, les associations d'idées prennent le chemin qu'elles prennent par nature. Les associations d'idées sont libres. Et donc je crois que ça m'a replongé dans mes premières lectures d'adolescence, qui était Simenon. Je lisais beaucoup de romans policiers, ce que je ne fais plus du tout, mais ce que j'ai fait de manière exclusive à une époque où, comme les ados du Goncourt des lycéens, j'avais du mal avec les descriptions. Et pourtant, dans Simenon, il y a beaucoup de descriptions. Donc c'est des idées préconçues par rapport aux descriptions. C'est le thème d'un autre débat, mais c'est assez intéressant ce que les gens entendent par description. Donc je lisais beaucoup de Simenon, et Simenon, c'est des romans policiers, il y a le personnage de l'inspecteur, et il y a des atmosphères particulières qui m'ont énormément marqué. Et donc ces lectures qui étaient un peu oubliées, un peu reléguées dans ma vie de lectrice, de femme lectrice, sont revenues à la surface. Et de là est né le personnage d'Alexandre Cousinet, qui est l'inspecteur de police à la retraite, qui se passionne pour la disparition des jeunes, les jeunes qui disparaissent, et en particulier en campagne, dit-il. Donc il intervient dans l'histoire parce que, comme Armand, le jeune homme, meurt d'un accident. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un accident, mais enfin, il y a peut-être des choses inexpliquées. Et puis, il se trouve qu'un mois plus tôt, il y a une jeune fille qui peut-être il fréquentait, qui a disparu. On ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc lui, bien qu'à la retraite, il dit, tiens, il y a peut-être une histoire pour moi. Donc il y va, et il va rencontrer Jérôme, et là, il va faire ce que personne n'a jamais fait, et qui est très simple, hein. C'est un peu comme poser la main sur l'épaule de quelqu'un. Il va lui poser des questions. Donc au départ, des questions comme fait la police, hein. Est-ce que vous connaissiez telle personne? Est-ce que vous avez entendu parler de telle jeune fille, etc. Mais pour Jérôme, qui est un être qui est comme un coffre-fort même pour lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait rien de lui, ne sait rien de ses parents, des mystères recouvrent d'autres mystères, et à plusieurs moments, il se rend compte qu'il n'a jamais parlé du fait qu'il était un enfant trouvé, ni à sa femme, ni à sa fille, ni en fait à personne. Parce que l'occasion ne s'est pas présentée, que lui-même n'y pense jamais, et peut-être aussi parce que jamais personne ne lui a posé de questions. Donc c'est la libération de la parole qui vient tout simplement du fait que quelqu'un se tourne vers vous et vous dit « Et vous alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ?» Et bizarrement, cette question « Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qui êtes-vous ?» je me rends compte à quel point c'est une question. Alors, je ne sais pas si c'est l'époque, je ne sais pas si elle est devenue ou si elle a toujours été. C'est une question tout à fait rare. C'est-à-dire, finalement, quand on prend la peine de la poser, on se rend compte que les gens ont un soulagement parfois. Parfois, ils ne veulent pas du tout répondre. Hein, mais parfois, il y a un soulagement comme si ah, bon, on ne leur a jamais posé. Et ben, on se dit « Ah tiens, c'est bizarre ». Pourtant, juste la curiosité d'un individu pour un autre individu. Et qui parfois sauve. Donc l'inspecteur Cousinet, il a ce rôle-là, c'est celui qui pose les questions.
Et du coup, effectivement, il y a une recherche des origines et une recherche policière. Vous brouillez un peu les pistes, on a l'impression que vous aimez beaucoup ça. Il y a de Sartouille, hein. Bien, alors, je pense que l'heure tourne, enfin je pense que c'est une certitude. Donc est-ce que peut-être on avait prévu, enfin Agnès de Sarthe et Olivier Adam peuvent lire un extrait de leur livre si vous le souhaitez, à moins que vous ne préfériez leur parler directement et leur poser des questions ou leur dire ce que vous voulez leur dire. Alors voilà, je pense qu'on va vous faire passer un micro.
ça marche pas. Je ne connais pas du tout vos écrits. Je m'intéresse beaucoup à la littérature, pourtant. Je trouve que vous avez prononcé le mot grâce en début de rencontre, et je trouve que c'est un mot qui vous va très bien. Et j'ai bien aimé la manière dont vous avez parlé de la façon dont vous écrivez, hein, où vous construisez vos personnages. Mais ça me semble vraiment trop complexe, hein, ces associations d'idées, ces mots à double entendre. Je voudrais savoir, enfin une question toute bête, combien de temps vous mettez en général pour écrire vos bouquins ? Et je voudrais savoir si vous avez déjà abandonné les projets en cours de route.
Ça me prend assez longtemps. Je suis très admirative des écrivains, et je sais qu'il y en a qui publient un livre par an. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce rythme-là. Pour moi, c'est vraiment une question de marée. Un livre, c'est vraiment regarder la mer monter. Et une fois qu'elle est montée, bah, il faut qu'elle redescende avant qu'une nouvelle marée puisse arriver. Donc moi, là, par exemple, bah, j'attends que la marée descende. Hein. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Je suis complètement paralysée. Donc le temps de l'écriture, il faut déjà le temps du reflux. Alors, du reflux du livre précédent. Alors ça prend très longtemps. Et puis après, il faut le temps pour que ça afflue, c'est-à-dire que des idées, une envie, une image passe et qui nous interroge ou qui nous plaise ou qui nous intrigue suffisamment pour qu'on veuille en faire un livre. Mais donc ça prend un certain temps. Et puis après, il y a l'écriture elle-même. L'écriture elle-même, finalement, c'est peut-être ce qui va le plus vite. C'est le moment où j'accepte d'écrire, parce que moi, je refuse beaucoup d'écrire. Je passe beaucoup de temps à ne pas vouloir écrire. Et en général, je ne veux pas écrire parce que j'ai deux sentiments très, très simples et bêtes. Je suis fâchée avec le monde, donc je veux pas écrire. Parce que le monde est trop moche, trop triste, trop uniforme, trop violent. Donc j'ai une attitude de réclusion. Et là, je peux pas parler. Je veux rien dire, je veux voir personne. Donc il faut que ça s'arrête, cette chose-là. Et puis, je suis fâchée avec moi. Ça, c'est mon autre empêchement. C'est-à-dire que je me dis, tu vas encore écrire un livre sur quoi? Puis qu'est-ce que t'as à dire? Pourquoi t'aurais des trucs à dire? Alors que les autres, alors, ils ont pas des trucs à dire, eux. Et puis, tout le monde a des choses à raconter. Alors, pourquoi les autres, ils sont pas écrivains? Et puis, voilà. Donc, il faut que j'apaise mon sentiment hostile au monde, que j'apaise mon sentiment hostile à moi-même. Une fois que tout ça est apaisé, je peux commencer à raconter une histoire, mais ça prend du temps. Et ensuite, une fois que tout ça est calme et qu'il y a une idée qui arrive, parce qu'en général, c'est le moment où elle arrive, c'est comme un peu les histoires d'amour, quoi. Elles arrivent au moment où on est prêt à les accueillir. Donc, avec les livres, il y a un peu de ça. Donc, une fois que l'histoire arrive, là, j'écris vraiment. Et là, ça peut aller assez vite. Là, je peux mettre un an. Mais c'est avant que c'est long. Donc, et puis il y a aussi des livres qui sont. Alors, j'ai jamais abandonné. Vous demandiez s'il y avait des projets que j'avais abandonnés. Ça m'est jamais arrivé. Mais en revanche, ce qui est arrivé, c'est des projets que je pensais écrire, que j'ai pas écrit tout de suite et qui m'ont poursuivi pendant, par exemple, une dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, je comprends ce que je peux faire de cette idée. Mais ça met un certain temps, effectivement. Donc voilà, moi je suis très admirative des écrivains qui écrivent tous les jours, moi je n'y arrive pas, et très admirative de ceux qui écrivent tous les ans, je n'y arrive pas non plus, mais je me soigne.
Moi je voulais vous dire que tous les deux vous êtes très très beaux, ça je le savais déjà, mais d'une authenticité magnifique. J'imagine que les arbres vous saluent quand vous passez dans la forêt, tous les deux, là. Parce que vous êtes trop vrais.
Nous, en tout cas, on les salue.
Vous êtes trop vrais et vos livres m'interpellent dans la mesure où je suis née dans la forêt, pratiquement, à Fontainebleau. J'ai passé mon enfance dans les arbres. Je suis d'origine juive et je résiste terriblement. Donc, il faut absolument que je vous lise et je voulais vous dire merci. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des beautés ambulantes.
Bien, je pense qu'on va rajouter notre merci à votre merci, madame. Donc merci à vous, Olivier Adam, Agnès de Sarthe, pour nous avoir fait partager ces moments de vos livres.
Merci à vous.
Magnifique. Et bonne soirée à vous. Bonne lecture, messieurs, dames. Bonne soirée aussi.